Chroniques antarctiques. Voyage à la mer de Ross. Je vous emmène naviguer au cœur d'une expédition polaire le long des côtes de l'Antarctique.
On l'a rien tout devant derrière. On l'a tout devant derrière. Tout à fait, on l'a tout devant derrière.
Ok.
Bonjour à vous, chères auditrices et auditeurs de Radio Pays d'Hérault et RPH Sud. Nous arrivons aujourd'hui en vue des côtes de Tasmanie, après 10 jours d'une traversée assez sportive de l'océan Austral, que Noé, le second capitaine, nous avait commenté dans la dernière chronique. Avant la fin de la mission, j'ai tenu à interviewer une personne très importante pour la vie du bord pendant cette longue traversée antarctique. C'est le cuisinier. Donc Charlie, t'es notre cuisinier à bord et donc la mission se termine là. On va arriver demain à Hobart. Bon, comment ça s'est passé pour toi ce mois et demi de mission?
Bah, comme toutes les autres embarques, ça reste beaucoup de travail. Beaucoup de temps passé en cuisine, forcément. On est 18, c'est quand même beaucoup d'heures cuisinées, le matin, le midi, le soir, anticipé, pour générer un peu de temps quand même, malgré tout, pouvoir essayer de sortir un peu dans ces beaux territoires qu'on a pu voir, là. C'est vrai que si je passe mon temps en cuisine et que je vois rien, autant rester chez moi, quoi, au final.
Oui, t'as quand même eu le temps de faire un peu des sorties à terre en Zodiac, j'ai vu, mais en moyenne, tu travailles combien d'heures par jour? Comment tu organises ton temps de travail à bord?
Je me lève tôt déjà, je me lève à 5h30, je prends le petit-déj, après je passe au petit-déjeuner, je fais la petite salade de fruits, j'essaie de faire les deux repas en même temps le matin, repas du midi et du soir, comme ça me laisse un peu de temps pour au moins faire une sieste l'après-midi et puis éventuellement aller marcher un peu, aller sortir voir les cabanes des explorateurs du début du 20e en l'occurrence, et entre autres d'ailleurs. Voilà, c'est un peu comme ça que je fonctionne, j'ai pas trouvé mieux pour pouvoir me générer du temps l'après-midi, quoi.
D'accord, on a eu le temps d'apprécier ta cuisine depuis un mois et demi. Et je compare entre alors les expés ultimes où on bouffe que du lyophilisé, là c'est terrible. Il y a aussi pas mal de navires où on mange pas avec la qualité qu'on a connue ici. Bon, ben ça vient de ton expérience. Et pour faire les appros, là, pour être autonome pour 18 personnes pendant 2 mois, ça se passe comment et tu stockes quelle quantité?
Il n'y a pas vraiment de règles en fait, on essaye de charger au maximum, on a des bahuts en bas au Polar Pot Store, c'est l'endroit où on stocke un peu notre sec et les congelés et surgelés. Donc on a 3 bahuts, on les a switchés en frigo pour mettre plus de frais en fait dedans. Donc il nous restait 3 congélateurs au total pour stocker poissons et viande surgelée, quoi. Ouais, encore une fois, c'est pas une science exacte. De prévoir pour 2 mois, pour 18 personnes, et on va pas dire que c'est aléatoire. Voilà, on essaye de charger au maximum, on a une quantité de fruits et de légumes, après il faut pouvoir faire tourner tout ça. Essayer de commencer par les produits périssables en premier, les tomates, les concombres, des choses comme ça en fait. Malgré que j'ai pu tenir les tomates jusqu'à il n'y a pas très longtemps en fait. Je sais pas ce qu'ils mettent dedans, mais en tout cas ça m'arrange bien en tout cas.
Oui, c'est vrai qu'on est en fin de mission là et on a encore un peu de frais. Là. On a une salade de frais tous les jours, donc c'est pas évident à gérer cette affaire, c'est certain. Surtout si on compare à ce que mangeaient les explorateurs polaires du siècle dernier. Quand les stocks de provisions amenés par leur navire diminuaient, ils se mettaient à manger local, disons, des phoques, des oiseaux, des pingouins. Et même pendant les expéditions vers le pôle sud de Scott et Shackleton, ils finissaient par manger leurs poneys et leurs chiens, car ils les abattaient au fur et à mesure que les charges attractées sur les traîneaux diminuaient. Bon, c'était ça ou mourir de faim. Nous, comparativement, c'est restaurant 4 étoiles à bord.
Bon, à titre d'exemple, aujourd'hui, au déjeuner et au dîner, qu'est-ce qu'on mange ?
Ce midi, on a pu honorer les derniers légumes frais, en l'occurrence du chou et de la carotte. Après, je l'ai combiné avec des petits légumes congelés qui restaient, en l'occurrence des poivrons et des brocolis. Et puis, on s'est fait une petite salade fraîcheur, là, à connotation asiatique, avec du bœuf, une petite sauce sympa, aigre-douce, avec des graines torréfiées, du sésame. J'aime bien mettre un peu de ce genre de choses dans la cuisine. Et puis ce soir, on va manger la dernière poche de poisson, vraiment. C'est de la lingue qui nous reste. Il nous reste un peu des légumes surgelés, là, des brocolis, des petits pois. Je vais essayer de combiner ça avec des épinards aussi, une petite sauce beurre blanc et une purée de pommes de terre. Et voilà, je pense qu'on sera pas mal. Il reste 2-3 morceaux de fromage aussi qui sont en train de décongeler derrière vous, là. Et puis le petit dessert habituel. J'essaie de faire un dessert par jour. On mange la moitié le midi et puis l'autre moitié le soir. Et mon genre de petite finger food pour finir sur une touche sucrée, quoi.
Oui, on apprécie beaucoup tes desserts, hein. C'est vraiment bon et varié. Et sur la traverse retour, on a pris pas mal de mauvais temps, donc le bateau roulait bord sur bord. Néanmoins, tu nous as fait à manger, donc j'imagine que c'est un peu le parcours du combattant dans la cuisine.
Bah ouais, hein, cuisiner jusqu'au bout, hein. Puis encore une fois, on a 18 bouches à nourrir, donc voilà, c'est important de bien manger et essayer de faire un maximum pour sortir quelque chose de la cuisine. Même si ça roule beaucoup et même si ça vient de me chercher au plus profond de moi-même, faut assumer jusqu'au bout, et c'est vrai que c'est pas toujours évident. Les portes de four qui s'ouvrent dans un roulis, c'est pas agréable. Hier, la porte s'est ouverte, les deux vitres sont parties, se sont déboîtées, et par chance, elles ont pas explosé, quoi. Mais voilà, c'est aussi les aléas de la mer, et il faut composer avec tout ça, malgré tout. Et tout ça mariné maintenant, donc il y a de moins en moins de gens malades, contrairement au début de la croisière. Et là, on a faim quand même, à 19h30, on a les crocs, quoi, donc il faut sortir quelque chose de valable.
Oui, en fait, t'es cuisinier boulanger, parce qu'il faut faire le pain tous les jours, et tous les jours, tu fais ton pain, pétrin et tout le truc. Hein.
Ouais, parce que tous les jours, je sors 1,5 kg de pain par jour, et c'est vrai qu'on en mange le petit déjeuner-dîner, et ça passe bien au petit-déj, ouais, donc tous les jours du pain.
Le fait d'avoir un bon cuisinier à bord d'un navire, c'est vachement important. Moi, j'ai connu des embarquements où le cuisinier était peu compétent ou carrément s'en foutait, ça plombe l'ambiance. Alors que là, c'est le moment social du repas, du midi et du soir, c'est autour d'un bon repas, c'est super important, quoi. Merci Charlie.
Avec plaisir.
Nous sommes donc maintenant arrivés à Hobart, notre destination finale en Tasmanie. L'île de Tasmanie est située au sud-est de l'Australie, dernière terre habitée avant la traversée de l'océan Austral vers le continent Antarctique. Et donc, Hobart est historiquement un port de départ majeur pour les expéditions vers ce continent, tout comme d'ailleurs Christchurch, notre port de départ en Nouvelle-Zélande. L'Australian Antarctic Division, donc l'Institut polaire australien, à son siège à Hobart, et ses brise-glaces partent de ce port pour ravitailler les trois bases australiennes de Casey, Davis et Mawson, qui sont situées sur le littoral antarctique dans l'ouest de la Terre Adélie. Leur nouveau brise-glace, baptisé Nuina, en service depuis 2021, est un navire de 150 mètres de long, donc un monstre comparé à notre petit astrolabe long de 70 mètres, qui lui aussi est basé à Hobart pour ses rotations vers la base de Dumont-d'Urville. L'Institut polaire français, l'IPEV, a donc aussi ses quartiers logistiques à Hobart, et il existe depuis de nombreuses années une collaboration étroite entre les Français et les Australiens pour leurs activités polaires. J'y ai notamment participé pour les programmes de recherche océanographique dans le bassin de la Terre Adélie. Une fois Persévérance à marée à quai à Hobart, nous avons eu la visite à bord de nombreux collègues australiens et ils nous ont dit être très impressionnés par notre mission en mer de Ross avec ce « petit » entre guillemets voilier polaire comparativement à leur énorme Nuina, et qu'ils souhaitaient collaborer avec nous pour des expéditions futures. Voilà donc de bonnes nouvelles pour l'avenir, et je laisse la parole à Jean-Louis pour le bilan final de notre mission.
Bon, mais on est arrivé à Hobart, c'est un moment important, ça fait plus de 2 ans que je travaille sur ce projet, et départ de Christchurch, bien sûr, c'est un point de départ historique. Donc quand on prépare une mission comme ça, qui a duré presque 2 mois, avec des points d'arrêt, des distances à parcourir. On fait des calculs, on se dit pourvu qu'on puisse passer, il y a la glace, etc. Et on est arrivé à Hobart, je dirais 2 jours avant le programme que j'avais prévu. Donc c'est une réussite, je dirais, sur cette mission. Il y a plusieurs choses qui sont vraiment importantes pour nous, pour l'avenir de Persévérance. Ça a duré quand même 55 jours. On a fait 7000 milles. On a marché beaucoup à la voile. Et ce qui est formidable, c'est que ce bateau a consommé 20 tonnes de fuel en 55 jours sur 7000 milles. En général, les navires standards d'océanographie sont à entre 15 et 20 tonnes, des fois 25 par jour. Donc on peut dire que l'impact environnemental de ce bateau est très bon. Ça, c'est une première chose. Ensuite, on a vu que pour le programme scientifique, hein, tout le monde a mis la main à la pâte, quoi, hein. C'est intéressant de voir comme tout le monde s'est allié sur des moments qui n'étaient pas faciles, aller faire les collectes à l'arrière, tout, etc. Donc il y a eu une équipe qui s'est créée. Et ça fait plaisir de voir qu'il y a une communauté qui s'est créée dans ce voyage. Donc science, impact anthropique, qui est excellent. Et puis, ce que j'ai bien aimé, il y a eu une ambiance. Il y a une ambiance où on devient un peu famille, puisqu'on vit, on vit vraiment avec les uns, avec les autres, on mange ensemble. Toute la journée, on est sur un territoire qui n'est pas géant. On se croise sans arrêt. En plus, on a quand même eu beaucoup de grosses mers, donc on se cogne l'un l'autre, etc. Je trouve que j'en ai fait quelques expés. Avoir une alliance aussi solide entre les gens sur 2 mois, pour moi aussi, c'est une récompense. Donc ça donne du courage, de l'envie pour donner une suite à cette mission. Et donc la prochaine, ça sera une étude de l'océan austral aux 4 saisons. Parce qu'en fait, toutes les campagnes se font essentiellement l'été, hein, les campagnes océanographiques. Et donc tout le temps, quand je montais PolarPod, je sentais que ce qui est intéressant, c'est qu'on sera là en permanence, à toutes les saisons. Et en fait, c'est un peu l'objectif de Persévérance, d'être là aux 4 saisons. Et donc en fait, ce qui est prévu, mais c'est des transects, c'est-à-dire partir de la côte, et puis là, on va aller plus loin jusqu'à la lisière de Pâques. Donc, on va faire des allers-retours entre la côte et la lisière de Pâques. Et on va faire ça aux 4 saisons, puisque on connaît l'été, mais pas les autres saisons. Donc, ça, c'est le prochain projet. On l'appelle en anglais Southern Ocean 4 Seasons. Ça veut dire l'océan austral aux 4 saisons. J'espère 2027-2030, peut-être encore plus. Et donc, voilà, ça, c'est mon prochain chantier. Je pars de Hobart avec beaucoup de satisfaction sur cette mission. Et bien, ça va nous donner à tous du courage pour la suite.
Chers auditeurs, nous arrivons donc au terme de ces 14 chroniques qui vous ont raconté notre quotidien à bord de Persévérance au fil de cette mission antarctique de 2 mois. Donc, à une prochaine fois peut-être pour une nouvelle mission. Chroniques antarctiques. Voyage à la mer de Ross. Je vous emmène naviguer au cœur d'une expédition polaire le long des côtes de l'Antarctique.
On l'a rien tout devant derrière. Voilà, tout devant derrière. Tout en fait, on l'a tout devant derrière. Ok.
Ah, là, j'ai l'air de.
Ouais, Sergio, c'est clair, c'est ça?